Bonjour à tous et bienvenue sur Calade, au sommaire de notre journal local et régional. Semaine de la maladie de Charcot, grande collecte de matériel médical à Villefranche-sur-Saône. Vite, une vision philosophique du temps présentée par les enfants du PRE, programme de réussite éducative de Villefranche. Calade, le journal. Yves Coppens, le scientifique, devait sa notoriété à la découverte en 1974 de Lucie, l'Australopithèque, la plus célèbre du monde. Il s'est éteint mercredi à l'âge de 87 ans. Titrait le journal Le Monde. Je n'avais jamais raconté autant dans le détail les conditions de découverte de cette petite préhumaine de 3,2 millions d'années en Éthiopie en 1974, confie-t-il en 2018 au journal La Croix. Or, les ossements ne sont pas apparus d'un coup. Ce fut laborieux. Puis, il nous a fallu plusieurs jours pour comprendre qu'ils appartenaient au même individu pour reconstituer son squelette. Destiné ensuite à une incroyable médiatisation. D'abord, c'était tout de même une découverte spectaculaire. En 1974, nous n'avions encore déniché aucun préhumain aussi ancien, ni aussi complet. Nous avons pu déterminer que cette jeune Australopithèque marchait et grimpait à la fois. Elle n'appartenait plus au monde des singes, mais n'était pas encore du genre homo, le nôtre, qui pratique une pipédie exclusive. Grâce aux avancées de la paléontologie et de l'histoire des mutations génétiques, nous savons que les grands singes et les hommes partagent des ancêtres communs. Les deux branches commencent à diverger il y a 10 millions d'années, en Afrique centrale et de l'Est. Une sécheresse importante aboutit à la transformation de certaines zones boisées en prairies arborées. La faune et la flore s'adaptent. Certains singes se nourrissent de racines et non plus exclusivement de fruits des arbres, grâce à une denture modifiée. Au fil des millénaires, ils marcheront mieux que ceux des forêts. Ce sont les Australopithèques. La sécheresse s'aggrave. Il y a 3 millions d'années, c'est à ce moment-là que les premiers hommes divergent des Australopithèques, en particulier Homo habilis, sous la pression de cet environnement presque dépourvu d'arbres. Certains Australopithèques deviennent exclusivement bipèdes. Alors, leur tête se redresse et leur système respiratoire se transforme, tandis que leur denture permet une alimentation plus diversifiée. Pirate de ces modifications, le cerveau est mieux irrigué. Il devient plus gros et plus complexe et va permettre à Homo habilis et à ses successeurs Erectus, puis Sapiens, c'est-à-dire nous, de développer une adaptation culturelle à l'environnement. Ça fait du bien en ces temps de se rappeler de ses origines. Qu'en pensez-vous ? Semaine de la maladie de Charcot, grande collecte de matériel médical à Villefranche-sur-Saône dès à présent et jusqu'au 25 juin de 14h à 17h dans les locaux de la Croix-Rouge. À l'initiative de l'association caladoise Espace Charcot, en partenariat avec la Croix-Rouge Beaujolais-Val-de-Saône, transmis à l'entreprise d'insertion Envie Autonomie Rhône-Alpes. Pour nous en parler, les acteurs concernés.
Donc je suis Lucille Gacon, donc je suis chargée de développement chez Envie Autonomie Rhône-Alpes. Envie Autonomie Rhône-Alpes, c'est une entreprise d'insertion qui a pour objectif de rendre plus accessibles les aides techniques, donc des aides à la mobilité, à l'hygiène, au transfert, à la verticalisation, au maintien à domicile. Également de réduire le gaspillage et les déchets qui sont liés au fait qu'on n'utilise pas les aides techniques jusqu'au bout de leur durée de vie. On sait notamment que 30% des aides techniques ne sont plus utilisées au bout d'un an. Et puis, cette entreprise d'insertion a pour vocation également de créer de l'emploi inclusif. Donc, en recrutant des personnes qui sont éloignées de l'emploi initialement et en les accompagnant dans un parcours de formation dans le cadre de notre atelier de remise en bon état d'usage des aides techniques.
Très bien. Et nous avons avec nous également...
Patrick Allais. Donc, je suis le président de l'association Espoir Charcot, une association caladoise qui vient en aide aux personnes qui sont touchées par cette maladie, la maladie de Charcot ou sclérose latérale amyotrophique. Et nous aidons les malades à s'équiper, entre autres de matériel de communication. On fait des visites à domicile pour les aider à vivre. Malgré cette maladie qui est, je vous rappelle, une maladie sur laquelle il n'y a pas de traitement aujourd'hui. Donc quand vous êtes diagnostiqué de cette maladie, vous avez une espérance de vie de 2 à 3 ans. Donc c'est toujours très difficile pour les familles. Et puis effectivement, on fait aussi des événements pour essayer de financer la recherche médicale à travers la Fondation de recherche médicale. Nous militons fortement à la possibilité pour les malades de récupérer ou d'avoir un remboursement sur matériel reconditionné, comme le fait Envie Autonomie. Parce que je vous le rappelle, à l'heure d'aujourd'hui, les remboursements se font que sur du matériel médical neuf. Et il est dans les projets de loi actuellement de pouvoir bénéficier de ce matériel reconditionné, garanti, de pouvoir être remboursé. Et c'est extrêmement important parce que le reste à charge souvent des familles est très lourd, surtout quand on ne touche que l'APA et la maladie de Charcot. On a quand même un public assez âgé souvent et effectivement c'est une double peine, celle de la partie financière.
Et nous avons un troisième invité également autour de ce plateau.
Daniel Guillot, je suis président de l'unité locale Beaujolais-Val-de-Saône qui regroupe, je dirais, l'ensemble du nord-est du département du Rhône. Et donc la Croix-Rouge, c'est une organisation donc déjà ancienne qui a pour objectif d'essayer de répondre à l'ensemble des souffrances humaines, qu'elles soient psychologiques, physiques, mais aussi sociales. Et c'est la raison pour laquelle la question du handicap est une question qui nous paraît importante. Et quand Patrick Allais nous a soumis l'idée de travailler sur cette question du recyclage de matériel médical, avec toute la problématique qu'il a apportée, on s'est dit banco et on a quelques moyens au niveau de la Croix-Rouge, puisqu'on a l'avantage d'avoir des locaux et une logistique qui fonctionne plutôt bien. Et donc on s'est dit, ben, pourquoi pas mener une opération de collecte, notamment avec Envie Autonomie. Je ne reprendrai pas tout ce que Lucille a dit tout à l'heure, mais ça résonne très fortement, hein, le recyclage, le handicap, l'insertion, sont des choses qui nous tiennent à cœur et je pense que cette opération de partenariat, parce que c'est dans ce cadre-là qu'elle se situe, illustre bien ce qui peut être fait. Alors on a une démarche effectivement d'appel aux dons. Ce n'est pas la première fois que nous faisons des appels aux dons, hein, comme l'a dit Patrick de son côté.
Le matériel est cher aujourd'hui. Le monde de l'handicap est excessivement onéreux pour les familles. Et quand vous avez des entreprises qui permettent aux familles d'acquérir du matériel à moindre coût...
Mais c'est le petit coup de pouce qui fait la différence.
Peut-être, Lucille, préciser le matériel qu'on peut récupérer. Mais en ouvert, hein, à la Croix-Rouge, il me semble.
Voilà, globalement, donc ce sont effectivement les aides à la mobilité, donc tout ce qui est déambulation, on a dit, les cannes, les rollateurs, les fauteuils roulants électriques, manuels, transferts de confort, tous les équipements de maintien à domicile, les sièges de repos, les sièges releveurs, les barres d'appui, les lits médicalisés, les tables de lit, également les aides à l'hygiène, et ça c'est effectivement assez précieux parce que c'est aussi du matériel qui est assez mal remboursé, donc les chaises de douche, les rehausseurs de toilettes, les chaises percées, les sièges de bain, et puis les aides au transfert à la verticalisation. Donc on va avoir les guidons de transfert.
Pour reprendre ce que dit Patrick sur le matériel électrique, bon, c'est quand même du matériel qui n'est pas forcément facile à transporter. Si on a des auditeurs qui ont du matériel électrique mais qui ont un problème de transport, de prendre contact avec nous et on examinera éventuellement une possibilité d'aller les chercher, soit nous, soit en Vie Autonomie.
La collecte de matériel médical à Villefranche-sur-Saône, c'est dès à présent et ce jusqu'au 25 juin de 14h à 17h dans les locaux de la Croix-Rouge, 1860 route de Francs à Villefranche. L'équipe du PRE organise le mercredi 29 juin une soirée à l'auditorium de Villefranche-sur-Saône. Cette soirée, présentée par les enfants du PRE, est l'occasion pour le programme de réussite éducative d'accueillir les familles, acteurs et partenaires de l'opération afin de leur faire découvrir le travail accompli de l'année dans le cadre d'ateliers réguliers d'expressions artistiques et au cours d'un stage en avril de certains enfants. Les explications avec Perrine Spé, elle est responsable d'action sociale de l'agglomération de Villefranche-Beaujolais-Saône et coordinatrice du programme de réussite éducative.
Donc le programme de réussite éducative, c'est un dispositif national qui existe sur tous les territoires dans lesquels il y a des quartiers prioritaires. Et l'idée, c'est de proposer un accompagnement individualisé à des enfants et leurs familles qui sont orientés par des acteurs de la communauté socio-éducative, donc principalement par l'éducation nationale, pour des différentes problématiques, en tout cas des fragilités, soit par rapport à des questions scolaires ou très souvent aussi sur des choses qui sont en lien avec l'extrascolaire, plutôt la relation aux autres, la question de la confiance en soi, parfois un manque d'ouverture culturelle. Donc nous, on va accompagner ces enfants de manière individuelle. Et parmi les choses qu'on va leur proposer pour atteindre un petit peu les objectifs de travail qu'on se fixe avec eux, il y a notamment des ateliers collectifs dans lesquels ils vont grandir un petit peu et, pendant toute l'année scolaire.
Alors, c'est, on peut dire, de l'action sociale, en fait, que vous faites sur les quartiers plus particulièrement. Hein,
tout à fait. On intervient principalement sur les quartiers prioritaires, mais étant donné qu'on est soutenu aussi par l'agglomération, on peut aussi accompagner des enfants qui sont sur le reste de la ville et de l'agglomération.
Bien évidemment. Est-ce que vous avez des locaux ou finalement vous êtes un peu itinérant voilà.
Un peu les deux, j'ai envie de dire. On a des bureaux qui sont dans le quartier de Bellini. On est dans un appartement en fait au cœur du quartier. Donc ça nous donne vraiment une proximité qui est vraiment importante et intéressante dans le travail avec les familles. Après, on essaye vraiment d'être en proximité avec les familles avec lesquelles on travaille. Donc on propose des rendez-vous dans les maisons de quartier ou dans des lieux de proximité sur les autres quartiers du Garret et du quartier de Belle Roche. Et ensuite, on a des modes d'intervention qui peuvent être très différents. Donc, on va aussi en famille souvent. On peut aussi accompagner des jeunes sur des lieux extérieurs. On peut vraiment adapter notre mode d'accompagnement par rapport aux besoins de la famille.
Donc, un travail collectif, on va y arriver maintenant. Je pense qu'on a compris, en tous les cas, ce que vous faites, quelle est votre mission plus particulièrement. Donc, peut-être nous parler effectivement de ce grand rendez-vous qui va créer du lien. Un petit souffle d'air aussi, peut-être pour tout le monde, parce que c'est dans un côté, bien évidemment, convivial et festif. J'imagine qu'on finit l'année pour se retrouver, peut-être pour certains, en septembre après encore.
Tout à fait. Donc, ce sera le mercredi 29 juin à 18h à l'auditorium de Villefranche. On a eu envie d'avoir en effet ce temps fort et ce temps festif qui est à la fois pour les familles et à la fois pour tous les partenaires avec lesquels on travaille. L'idée cette année, c'était de travailler pendant toute l'année un peu en mode projet, donc de proposer à un certain nombre de jeunes de se mobiliser sur des ateliers autour de la voix, autour du théâtre, autour de la danse, mais avec vraiment un objectif final de spectacle. Et on s'est rendu compte que travailler avec vraiment un projet et un spectacle à la clé, ça a permis vraiment de créer une bonne dynamique de groupe.
Peut-être fédérer. Aussi.
Assez fédératrice, voilà. Donc on a eu 12 enfants, donc c'est toujours des petits collectifs, comme j'expliquais tout à l'heure. 12 enfants qui se sont mobilisés sur un atelier hebdomadaire depuis le début de l'année et qui ont été rejoints par une petite dizaine d'enfants en plus sur un stage intensif qu'on a fait en avril. Donc là, ça fait à peu près 20 enfants qui vont monter sur scène autour d'un spectacle donc, qui a été créé par Nadège Benguesmia avec laquelle on travaille. Donc un spectacle qui s'appelle « Vite, une vision philosophique du temps » pour essayer de nous faire aussi un peu tous réfléchir à la manière dont, voilà, dont on gère et dont on utilise notre temps.
Le petit côté parentalité.
Voilà, il y a ça aussi. Chacun, je pense, y trouvera beaucoup de choses. Et donc, ce qui est intéressant dans ce spectacle, c'est qu'on a vraiment travaillé pour la première fois sur de l'inter-âge. Donc, on a des jeunes qui ont de 7 jusqu'à 16 ans. Et donc, ça a en tout cas vraiment bien fonctionné cette année. Donc, le cœur de cette soirée, c'est ce spectacle-là. Et en amont et après le spectacle, on a aussi une exposition qui donnera à voir tout ce qui a pu se faire dans les autres ateliers et l'ensemble des projets du PRE. Et pour finir, ce soir-là, il y aura aussi 6 jeunes qui vont être la caméra à l'épaule et qui vont filmer le spectacle et aussi interroger le public. Et ces jeunes-là ont réalisé pendant les vacances d'avril un stage vidéo avec une association qui s'appelle Tilianza pour travailler sur la sensibilisation à l'outil vidéo, le montage, donc autour de la fabrique de ce spectacle. Ils ont suivi un petit peu la fabrique du spectacle et à travers ça, donné à voir aussi un petit peu ce que fait le PRE.
Ce sont 19 enfants de 7 à 16 ans qui ont travaillé lors d'ateliers réguliers depuis début 2022 et aussi au cours d'un stage pendant les vacances d'avril. 6 jeunes du programme de réussite éducative, caméra à l'épaule, participeront également à un projet de reportage et montage vidéo autour de la réalisation du spectacle final. Présents au stage d'avril, ils seront aussi le 29 juin pour capter des images du spectacle et recueillir les impressions du public. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelade.